recevoir une parole qui fait vivre. Pas forcément la parole que nous demandons. Dieu nous donne toujours plus que ce que nous demandons. Nous sommes très limités dans nos demandes. Les gens m'ont dit, du moment qu'on a un petit peu de soleil, ça va. Il faut quand même plus que ça, non? Pour vivre. Il faut la joie dans notre cœur. La conscience que le Christ habite en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Bien, il faut le savoir. Le temps approche où nous allons changer de maison. Et j'aimerais ce matin vous conduire dans la lecture du livre d'Esdras, Ancien Testament, un peu avant les psaumes. Je ne dis pas souvent dans ce livre, je peux vous résumer en deux phrases. Les enfants d'Israël faisaient tout pour irriter Dieu. Leur conduite, leurs paroles, leurs réactions étaient contraires à Dieu. Et notre Dieu qui est patient, malgré les offenses qu'il portait contre les serviteurs de Dieu et contre Dieu lui-même, Dieu était patient. Il leur a envoyé des prophètes pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Et le visage restait ferme, les cœurs restaient fermés. Et voilà que le Seigneur leur a dit, je vais vous envoyer en déportation, afin que vous puissiez bien savoir que Dieu a des exigences. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Le roi de Babylone, nous dirions aujourd'hui de l'Irak, est arrivé sur le peuple d'Israël. Ils ont tout cassé. Jérusalem, le temple, les enfants, les jeunes filles, les vieillards. Et ils ont emporté en déportation une partie du peuple d'Israël. Pendant 70 ans. Et là, ils pleuraient. Et ils chantaient des psaumes dans l'exil. C'était pas un camp de déportation de la mort. Ils étaient loin de chez eux. Ils travaillaient, ils ont eu des enfants et des petits-enfants. Et ils étaient loin de leur maison. Et après 70 ans, voici là le retour des enfants d'Israël. Parce que un roi d'Irak, un certain monsieur Cyrus, qui vaut pas un sou, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, je te demande de me construire une maison à Jérusalem. À ce roi. On lit la suite. Esdras, chapitre 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, des restes parce qu'ils sont morts beaucoup là-bas, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, les hommes de la religion juive, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des effets d'argent, de l'or, des effets du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Donc on avait volé le temple et Cyrus va leur rendre tout. Retour à la case départ. C'est beau. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Midredat, le trésorier, qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. Et voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or quand même, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles, tous les objets d'or et d'argent au nombre de 5400. Sheshbazzar emporta le tout à Babylone, de Babylone à Jérusalem, au retour de la captivité. Amen. Dieu va utiliser un païen pour encourager le peuple juif à rentrer chez lui. Il va, Cyrus, réveiller l'esprit des enfants d'Israël qui peut-être se disaient, on est là, on va rester comme ça, il n'y aura pas de changement, on se plaît bien là, on va rester. Et voilà que ils vont se mettre en marche pour revenir. Le chapitre 2 d'Esdras, vous le lirez si vous avez du courage. Il donne la liste des familles. Toutes les familles étaient comptées. Avec les parents, les enfants. Tout était noté pour retourner. Personne ne manquait. Personne n'était oublié. Même les chevaux, les mulets, les ânes, tout était noté. Et là, on devait découvrir des familles. Ah, ce sont vos enfants. Je ne les connaissais pas. Parfois, on n'est pas loin et on connaît plus la voiture du voisin que ses enfants. Ah, ce sont vos parents. On se découvrait tous enfants d'un même Dieu, tous servant Dieu et enfin réunis. Il y avait une unité. Il y avait un rassemblement. On partait pas tout seul en suivant ses idées. Moi, je crois que Dieu m'envoie comme ça. On partait pas tout seul. On partait ensemble. On était un dans le retour. Et pourquoi reviennent-ils? Nous l'avons lu au verset 5. Le Seigneur leur a réveillé l'esprit. Parce qu'ils s'endormaient. Certains avaient des positions bien payés. Certains avaient des métiers bien payés. Ils travaillaient dans ce pays de déportation. Et voilà que le Seigneur leur réveille l'esprit pour qu'ils aillent bâtir Jérusalem et une maison à Jérusalem. Parce que Jérusalem, si elle n'a pas une maison pour Dieu, c'est plus Jérusalem. C'est une ville morte, vide. Si dans notre vie, il n'y a pas un temps pour Dieu, chaque jour, si on n'a pas un endroit chez nous où l'on rencontre Dieu, nos journées sont vides, il manque quelque chose, on a beau dire et parler, il manque la présence de Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. On a besoin d'une maison. On a besoin de l'Église. Sans l'Église, nous serions des pierres mortes, éparpillées dans un champ. Mais l'Église, c'est la construction de Dieu. Dieu rassemble ses enfants pour qu'ils apprennent à s'aimer, à s'épauler, à se tendre la main. Dans l'église du Tabor, le plus important sera que nous soyons une maison de Dieu, chacun pour sa part. Amen. Je veux que ma vie soit une maison pour Dieu. Vous voulez aussi que votre vie soit une maison pour Dieu? Une maison où Dieu habite. Une maison qui soit comme une mère à l'intérieur de vous pour ses enfants, accueillant les autres, sans les juger, sans les humilier, sans les mépriser. Nous sommes une maison de Dieu. Quand nous sommes une maison de prière, qu'a dit le Seigneur ? Ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes une maison de Dieu quand le Saint-Esprit met en nous les sentiments du Christ. Quand Dieu fait de nous une bergerie où il peut ramener les brebis égarées. Quand Dieu fait de nous une hôtellerie où il peut ramener le blessé du chemin. Ça s'est pas fait comme ça au temps d'Israël. Les enfants d'Israël ont eu, évidemment, ça se comprend, c'est logique, mais quand même, beaucoup d'ennemis. Quand ils sont arrivés dans la terre promise, leur deuxième retour, des gens les ont empêchés, des gens les ont retardés, découragé. On a même écrit au roi de Perse en disant, mais interdis ça au roi. Ces gens-là, ils vont te causer les pires ennuis. Cette ville va devenir un obstacle pour ton royaume. Et on a arrêté les travaux pendant des années. Mais la Bible dit, l'œil de Dieu veillait sur eux. Et on les laissa continuer les travaux. Parce que des prophètes se sont levés en disant, comme le prophète Agé, comme le prophète Zacharie, continuez les travaux. Travaillez pour votre Dieu. Si vous voulez faire de votre cœur une maison pour Dieu, bien sûr le diable nuira à votre vie. Il vous découragera. Mais continuez de bâtir, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu sera avec vous. Amen. Ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. L'adversaire, c'est parfois nos pensées qui peuvent sombrer dans une méchanceté, dans un repli, dans un découragement. N'écoutez pas vos pensées, écoutez la pensée de Dieu. Recherchez la justice, c'est-à-dire ce qui plaît à Dieu. Recherchez la foi, confiance dans toute occasion, favorable ou pas favorable. Recherchez l'amour envers tous, envers Dieu. Et recherchez la paix avec tous. Voilà les pierres précieuses, voilà les matériaux pour construire une maison pour Dieu. Le roi a demandé que les travaux reprennent. Et il a dit que la maison ait des fondations solides. Il avait raison. Il faut que l'église ait des fondations solides. On entendra parler bientôt de bruits de guerre très sérieux et très graves. On entendra parler de plus en plus de terrorisme. Je vous disais l'autre jour, ce que je craignais, c'est qu'on attaque les églises. Vous avez vu ces soixantaines d'églises détruites en quelques heures au Niger. Que tout ce que nous faisons soit bien fait. Que nos vies soient solides. Nous serons éprouvés par la vie. Le regard de flamme de Jésus, quand nous arriverons là-haut, nous éprouvera. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta femme, de ton mari, de tes enfants? Nous serons toujours une maison pour Dieu. Là-haut, dans le royaume, Dieu sera tout en tous. Il habitera en nous. Christ habitera en nous. Amen. Ils sont partis, les enfants d'Israël, et ils ont construit la maison de Dieu, le temple. Et la bonne main, ce mot revient plusieurs fois dans la Bible, la bonne main de Dieu a été sur eux pour les préserver des attaques de l'ennemi, et ils ont réussi. C'est ce qui s'est passé quand ils ont réussi. Les jeunes criaient de joie. Et les vieillards pleuraient. Parce que les vieillards disaient, ah, quand on pense à la première maison, au premier temple démoli, puis les jeunes qui n'avaient jamais connu le premier temple criaient de joie. On ne savait plus démêler les cris et les pleurs, mais c'était quand même un jour extraordinaire. Après avoir construit le temple, ils ont reconstruit les murailles avec des portes, avec un certain monsieur Néhémie. Parce que le temple est là, mais Jérusalem est complètement détruite. Les murailles sont complètement défaites. Donc Jérusalem n'a pas de protection. Les voleurs peuvent venir. L'ennemi peut rentrer. Et Néhémie, qui est en déportation, il a une bonne place. Vous savez ce qu'il fait dans sa journée? Il verse du vin au roi. C'est pas trop méchant à faire, hein. C'est une grande responsabilité. Parce que si le vin, c'est du poison, c'est lui qui va tout prendre. Alors il verse du vin un petit peu le midi, un petit peu le soir, et puis entre deux, il se repose. Ça va, c'est pas trop difficile. Et voici que Néhémie, dans sa cage dorée, il apprend que là-bas, à Jérusalem, il n'y a plus de murailles, il n'y a plus de portes. L'ennemi rentre chez lui comme il veut. Alors il s'est assis, il a pleuré, il a prié. Et puis il a dit au roi, laisse-moi aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et le roi lui a dit, va les construire. Sans murailles, on ne sait pas où sont les limites. Sans murailles, on ne résiste pas. On laisse le mal entrer. On laisse les mauvaises pensées rentrer. On laisse des sentiments coupables rentrer. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Il fallait des murailles avec des portes, avec des verrous, des barres. Et ils ont travaillé à ces murailles. Tout le monde, même les bijoutiers avec leurs mains délicates, ils prenaient les moellons, ils les mettaient, des barres en bois partout. Même les parfumeurs, qui ne mettaient jamais la main dans quelque chose de sale, ils ont pris la terre, ils ont pris les pierres, ils ont construit. Même les chanteurs, messieurs, faut pas trop toucher aux chanteurs, ils ont pris les moellons, les pierres, les barres, les portes, ils ont construit pendant des jours, des mois, les murailles de Jérusalem. Chacun à sa place. Ils mettaient une protection autour de l'Église d'Israël. Nous devons prendre à cœur de mettre une protection autour de nos enfants, autour de l'Église par nos prières. Et notre bon exemple de joie, notre exemple de confiance, de prière dans l'adversité. Ne pas laisser de brèche, la muraille, ça ferme tout. Pas laisser les trous où le malin peut venir dérober, dévorer. Les brèches, chez nous, c'est un manque d'amour. C'est une brèche pour le diable. C'est un manque de pardon. Les brèches, pour nous, c'est un manque de reconnaissance envers Dieu et envers les autres. C'est toujours une souffrance. Et Satan dort à cet endroit-là. Parce que nous lui avons laissé une place pour qu'il entre chez nous. Alors ils ont construit avec les moqueries des autres. quelqu'un un jour qui leur a dit, hop, ils peuvent construire. Si un renard s'élance contre la muraille s'écroulera. C'est une flèche de moquerie qui était bien visée, en plein cœur, en voulant dire, ce qu'ils font ne sert à rien, ça ne tiendra pas, avec le temps ça s'écroulera, laissons-les travailler, ils en ont pas pour longtemps. Mais Néhémie, qui était un homme de Dieu au travail, il n'était pas à son poste de commande avec sa télé, il était au travail, il maniait la pelle et la pioche, et il leur disait sur la muraille, « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et travaillez pour vos fils, travaillez pour vos filles, travaillez pour vos femmes et vos enfants. » Eux n'auront pas besoin de faire ça, c'est à vous de le faire. La génération qui suivra n'aura pas connu ce temps des travaux. Elle rentrera dans un lieu avec le sentiment que on était là depuis toujours et que c'est venu tout seul du ciel et qu'il n'y a pas eu de larmes de versées, de douleurs et d'inquiétudes. Mais travaillons pour eux, amen. Travaillons pour ceux qui vont nous suivre. Je pense que le plus bel héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est un héritage d'un modèle de foi. C'est impressionnant quand j'entends des enfants qui disent « Ah, mon père, quand je pense à lui, je vois surtout un homme de foi, un homme de prière. Mon papa lisait la Bible. » Et ça, ça laisse une impression dans le cœur des enfants. Le plus bel héritage qu'on peut donner à nos enfants, c'est de prier pour eux. Amen. Et peut-être pas de votre vivant, mais après vous, vos enfants recevront des bénédictions et ils se diront pourquoi. J'espère qu'ils se rappelleront que leurs parents ont prié pour eux. Amen. Et la prière a peut-être tardé, mais elle est arrivée. Et j'ai vu des bénédictions parce que des parents décédés aujourd'hui ont prié pour leurs enfants. Amen. Ils travaillaient jour et nuit, tenant d'une main la truelle et de l'autre une arme pour se défendre. Parce qu'il ne faut pas travailler sans protéger son travail. Il ne faut pas travailler en vain. Il faut que nous soyons sérieux de faire un travail qui va durer dans le temps. Que demain, nos enfants puissent évangéliser à partir de ce lieu, l'église du Tabor. Amen. C'est donc une maison de Dieu, nous, qui va rentrer dans la nouvelle église. C'est un peuple de lumière, habité par la lumière du Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Ce n'est pas un peuple de tiède, ce n'est pas un peuple de peureux, ce n'est pas un peuple de gens qui se mordent et se déchirent. C'est un peuple uni par l'amour, avec une intelligence de ce qu'ils font et ce qu'ils vivent. Que vivons-nous en changeant de lieu? La parole du Christ qui dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Et Jésus va nous dire, il me l'a dit 1000 fois depuis, tu ne peux plus te cacher. Tu es repéré, tu es vu, tu es entendu, vous êtes vu. Vous êtes comme une lampe allumée que l'on va mettre sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui rentreront dans la maison. Ils sont passés à peu près depuis le commencement environ 12 000, quand je compte année après année. Ils m'ont pas tous vu. C'est pourquoi il nous faudra de l'aide avec des gens de bonne volonté qui respirent la bonté du Seigneur. Dans cette église du Tabor, ce qui nous a ce qui nous enchante chaque fois, c'est invariable, c'est la lumière. La lumière qui donne des couleurs magnifiques. Magnifiques. Tout le monde le dit. Mais la lumière qui éclaire les cœurs, ça c'est autre chose, hein. C'est Jésus au milieu de nous. C'est chacun de nous, quand nous pratiquons les commandements du Seigneur, qui sont des commandements pour l'amour. Alors on va vivre un petit temps de repentance, vous voulez bien? On va laisser, pas ici, respecter cet endroit quand même qui a vu passer beaucoup de monde, des milliers. Mais on va laisser, avant d'entrer dans cette église, nos mauvaises conduites, des méchancetés, des avarices, des rivalités, des colères. Et puis on va s'habiller, vous voulez bien? On va se mettre sur nous des vêtements de compassion, des vêtements de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ainsi nous serons des lumières. Il y aura la lumière qui va donner beaucoup de couleurs tous les jours différentes. Chaque année, chaque saison différente, chaque mois différent. Mais la vraie lumière, c'est nous qui la portons. C'est sur notre visage, c'est dans nos paroles, c'est notre regard. L'Apocalypse dit, le Seigneur trouve-t-il nos œuvres parfaites? On va aller dans la perfection, vous voulez bien? Nous devons être dignes de lui pour marcher en vêtements blancs avec lui dans le royaume de Dieu. Ce que nous allons vivre, frères et sœurs, c'est beau, c'est grand. C'est un bonheur, c'est un honneur. Certains sont partis avant. Certains sont partis dans la maison du Père avant. Ils ont vu ça de loin. Et ils nous ont dit, avant de partir, Dieu vous bénira là-bas. Frères et sœurs étrangers sont passés et ils nous ont dit, Dieu va vous bénir ici. Des gens de la ville sont venus. Les responsables nous ont dit, je ne sais pas pourquoi ici on se sent bien, vous aurez beaucoup de monde. Cyrus a prophétisé, hein. Quand on a construit le tabernacle, le temple, la première toile, vous savez, pour recevoir Dieu, une toile démontable dans le désert, Moïse a demandé qu'on apporte des offrandes de tissus, de toutes sortes de choses, pour construire le tabernacle. Puis à un certain moment, il y a eu un événement et Moïse a dit quelque chose que pas un pasteur au monde n'a jamais dit. Je n'ai jamais dit ça. Je crois que je ne le dirai jamais. Moïse a dit, il l'a écrit, il l'a fait publier, stoppez les offrandes. Il y en a trop. Gaspillage. Stoppez les offrandes. Je n'en veux plus. Bon, puis après, qu'est-ce que ça a fait, toutes ces offrandes? Ce que ça a fait? Moïse ne pouvait même pas rentrer dans la maison de Dieu. La gloire de Dieu était là. Et Moïse ne pouvait pas rentrer. Personne ne pouvait rentrer. Dieu habitait là. Et sur la maison, il y avait un nuage de plusieurs kilomètres qui montait jusqu'aux cieux. Et la nuit, il y avait des flammes de feu qui montaient. Ça, c'était au temps du désert. Donnez pour que le Seigneur soit honoré. Amen. Le lieu du tabor inspire naturellement la paix. Nous l'avons vu des centaines de fois. Des gens essoufflés par la vie, par les inquiétudes, sont venus se sont arrêtés. Ils nous ont dit, vous permettez qu'on s'arrête un peu pour penser, prier, réfléchir. Nous, à côté, on travaillait. Et on le laissait seul, on l'a laissé seul. Certains ont prié avec nous. Cette église est une barque d'évangile. Nous avons réparé la barque avec les moyens que nous avions à notre disposition. Et maintenant, il faut regarder le Seigneur qui tient le gouvernail. Et maintenant, il faut regarder les frères et sœurs qui vont ramer avec nous. Amen. Parce qu'on va ramer tous ensemble. Vous voulez bien? En cadence. Pasteur, il rame, il sait ce que c'est que de ramer. On va ramer ensemble, on n'est pas des galériens. On va faire avancer les choses. Et puis on va être là pour tous ceux qui viendront. D'ici 2 semaines, je pense, je ne peux pas affirmer. 3 semaines maximum. Ils viendront. Et on va jeter le filet de l'évangile. Avec l'espérance. Parce que quand il y a évangile, il y a Dieu. Et s'il y a Dieu, il y a le salut. Amen. Je prie le Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tes œuvres au milieu de nous. Nous qui sommes là depuis le commencement et nous qui venons peut-être d'arriver, nous voulons nous réjouir ensemble. Nous voulons participer, être présents dans ta maison pour qu'elle soit belle, qu'elle soit remplie de la lumière de l'amour de Dieu. Bénis ton Église, Seigneur. Qu'elle vive ce passage dans l'allégresse, dans les cantiques, dans les prières, dans la repentance. Et qu'en entrant dans ce lieu, pour reprendre la parole de la Bible, que nous puissions entendre des gens nous dire, nous venons parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Bénis, embellis, fortifie chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.